Vous écoutez, on lit pour vous.
Vers une réconciliation plus affirmée dans l'éducation francophone. Un texte de Gabriel Audet-Michaud, paru le 18 mars 2025 dans Le Franco. En dépit de certains défis, les conseils scolaires francophones de l'Alberta s'engagent activement dans la réconciliation avec les peuples autochtones à travers des initiatives novatrices. Que ce soit par des projets artistiques collaboratifs avec des artistes autochtones ou par l'intégration de savoirs traditionnels en classe, l'objectif reste le même: établir des liens sincères avec les communautés et ancrer ces échanges dans la réalité historique des territoires sur lesquels leurs écoles sont établies. Depuis quelques mois, une imposante sculpture d'ours en granit orne le terrain de l'école du Sommet à Saint-Paul. Offerte en emprunt par Stuart Steinhauer, cette œuvre vise à représenter les liens de plus en plus forts qui unissent l'artiste Cree à la communauté scolaire francophone. Il y a un profond respect mutuel qui s'est développé entre nous et lui, explique la directrice de l'école, Lise Gratton. À l'automne 2024, les élèves du primaire et du secondaire de cette école, du conseil scolaire Centre-Est, ont en effet entamé, en collaboration avec l'artiste, un projet qui vise à renforcer les relations avec les Premières Nations et les Métis de leur région et à s'ouvrir à la vitalité de leur culture. L'objectif est de permettre aux jeunes d'interagir directement avec les savoirs autochtones à travers l'art et par des échanges. L'initiative revêt une dimension encore plus symbolique, sachant que M. Steinhauer est originaire de la nation Cree de Saddle Lake, située à une trentaine de kilomètres de Saint-Paul, où un pensionnat autochtone a été autrefois dirigé par des missionnaires aux Blancs. C'est important que les élèves puissent comprendre ce passé pour mieux reconnaître le contexte dans lequel ils se trouvent aujourd'hui, précise l'instigatrice du projet. Un processus immersif. Ces derniers mois, les élèves ont d'abord visité le studio de l'artiste où il leur a révélé les secrets de son processus créatif et exposé les croyances spirituelles et le symbolisme animal qui imprègne son œuvre. Cette immersion s'est poursuivie par la découverte d'une tente de sudation et de tipis de cérémonie. Ce printemps, l'aventure se poursuit. Sous la houlette de M. Steinhauer, les élèves s'initieront à l'art de la sculpture avec de la pâte à modeler ou du savon. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est que toutes ces activités se déroulent sur le terrain, dans un environnement authentique et concret. Les jeunes bénéficient d'un apprentissage ancré dans la réalité. S'enthousiasme Lise Gratton. Dans les écoles du Conseil scolaire Franco-Sud, l'heure de la réconciliation a aussi sonné. Et c'est également à travers un projet d'art que les premiers pas ont été franchis. Depuis 2019, James Britton, un artiste et danseur pied noir, Siksika, parcourt les établissements un à un afin de créer des œuvres collaboratives avec les élèves dans un esprit résolument immersif. Il ne lui reste que deux écoles avant d'achever sa tournée. Il rencontre les élèves et le personnel, puis il retourne chez lui, rêve, prie, et c'est ce processus qui lui inspire ce qu'il va peindre. Il inclut ensuite les élèves dans sa démarche créative. Il participe avec lui à la réalisation d'une section de chaque tableau, explique Cynthia Launière-Zilk, directrice générale adjointe du Franco-Sud et membre de la nation Wolastoqiyik Wassipekuk. Depuis son arrivée en poste à la rentrée scolaire 2024, cette dernière s'efforce de renforcer les initiatives qui contribuent au processus de réconciliation dans les 15 écoles du sud de l'Alberta. Je sais que j'ai été embauchée partiellement en raison de ce dossier-là, précise-t-elle. Sans jeter la pierre à qui que ce soit, la directrice adjointe mentionne que les écoles francophones en Alberta accusent un certain retard par rapport au système anglophone où elle travaillait auparavant, notamment en raison de la barrière linguistique. Plusieurs personnes interrogées par la rédaction ont souligné la difficulté de trouver des intervenants autochtones qui sont aussi francophones. Selon eux, cet obstacle a retardé les efforts de réconciliation. Pour y remédier et éviter d'imposer une nouvelle langue coloniale aux communautés, plusieurs conseils scolaires ont décidé de collaborer dorénavant avec des intervenants qui parlent l'anglais, comme Stuart Steinhauer et James Britton. Disons qu'ils étaient au niveau de base à mon arrivée. Des choses se faisaient déjà, comme notre projet d'œuvre d'art, mais de ce que j'ai compris, ils n'avaient jamais eu de visite d'aînés et ils n'avaient jamais vu de cérémonie de purification de fumée. C'est la première chose que j'ai voulu organiser au mois d'octobre dernier, explique-t-elle. Sa collègue d'origine métisse, Jane Jensen, accompagnatrice culturelle, Première Nation, métisse et Inuit, partage une observation similaire. Je travaillais en Ontario et en Colombie-Britannique auparavant, et je trouve que c'était beaucoup plus avancé. J'ai été vraiment surprise de voir le retard en arrivant ici. Ces derniers mois, elle a entrepris un travail de fond, notamment pour comptabiliser les élèves autochtones autodéclarés dans les écoles du Franco-Sud et pour présenter certains concepts de base sur les savoirs autochtones. En moyenne, chacun de nos établissements compte au moins 5 élèves d'origine autochtone, principalement des Métis, dit-elle. Des initiatives novatrices. Bien que les écoles francophones aient pris du retard, les deux femmes voient grand pour les années à venir. Elles souhaitent ancrer davantage les cultures autochtones dans le quotidien scolaire. L'une de leurs priorités est d'instaurer une tradition pour honorer les élèves autochtones lors de leur graduation. Un geste qui s'inscrit dans une démarche de reconnaissance et de réparation, alors que les pensionnats ont longtemps freiné leur réussite scolaire. « On veut renverser les choses », affirme Cynthia Launière-Zielk. Elle imagine déjà la cérémonie. Des cadeaux traditionnels pourraient être offerts aux élèves métis sous forme de ceintures fléchées et aux jeunes Inuits et des Premières Nations avec un sac de médecine. Pour rendre ce moment encore plus significatif, elle espère qu'un aîné prononcera un discours. Ce sera une façon de reconnaître leur parcours et de célébrer leur réussite, précise-t-elle. Un autre projet qui lui tient particulièrement à cœur serait de donner à la future école de Cardston une appellation autochtone. Comme l'école sera construite en territoire pied-noir, Siksika, elle aimerait que ce soit les aînés de cette nation qui en choisissent le nom. Ce serait un très beau geste s'ils sont d'accord. Ce serait une manière concrète de reconnaître l'histoire et la présence de ce peuple sur ces terres, insiste-t-elle. Et puis, il y a cette idée qui germe, encore fragile, mais pleine de promesses. Faire de l'école La Vérendrye le premier établissement scolaire en Alberta, hors réserve, à enseigner une langue autochtone. Grâce à un partenariat envisagé avec l'Université de Lethbridge, les élèves de la région pourraient suivre des cours de Siksika. Si l'expérience s'avère concluante, d'autres écoles francophones pourraient s'en inspirer, notamment à Canmore et Calgary, où des langues locales comme le Stoney et Michif pourraient, elles aussi, trouver leur place dans le parcours scolaire. En tant que francophones, nous savons ce que signifie la lutte pour préserver une langue. Ce projet, c'est une manière de participer, à notre échelle, à la revitalisation des langues autochtones locales, explique Mme Launière-Zilk. Elle précise que l'enseignement ne serait pas confié aux enseignants du Franco-Sud au départ, mais à des aînés ou à des membres des communautés concernées, afin de garantir un apprentissage authentique et respectueux des traditions. Vous écoutez? Vers une réconciliation plus affirmée dans l'éducation francophone. Un texte de Gabrielle Audet-Michaud, paru le 18 mars 2025 dans Le Franco. Un apprentissage enraciné dans le territoire. Les initiatives proposées par le Conseil scolaire Franco-Sud s'inscrivent dans une vision plus large. Ancrer l'apprentissage scolaire dans l'histoire et la culture des peuples autochtones des territoires où sont situées ces 15 écoles. Cette approche vise à offrir un enseignement adapté aux réalités locales des nations du traité numéro 7 en créant des liens durables entre les élèves et les communautés autochtones qui habitent ces terres depuis des générations. L'accompagnatrice culturelle Jane Jensen insiste sur l'importance de cette démarche. C'est essentiel que les jeunes établissent des liens concrets avec l'histoire et la culture autochtone du lieu où ils grandissent. C'est pour ça qu'on aimerait enseigner des langues locales, comme le Siksika, à notre école de Lethbridge. On veut avoir une approche individualisée, souligne-t-elle. Isabelle Côté, une professeure à la faculté d'éducation de l'Université Simon Fraser, qui s'intéresse à l'intégration des perspectives autochtones dans l'éducation en contexte francophone minoritaire, explique les bienfaits d'une telle approche qui évite de présenter une vision homogène des peuples autochtones. Lorsqu'on entre dans une école, on devrait comprendre sur quel territoire on se trouve. Les personnes autochtones ne sont pas partout pareilles. En Alberta, il faudrait être capable d'identifier si l'on est sur le territoire des Pieds-Noirs, des Cris ou d'autres nations, et reconnaître leur diversité culturelle et linguistique, précise-t-elle. Cette autochtonisation devrait également s'étendre aux salles de classe. En sciences, par exemple, l'étude du territoire et de la faune, arbres, plantes, écosystèmes, peut être mise en relation avec les connaissances traditionnelles autochtones propres à la nation sur le territoire de laquelle est implantée l'école. L'objectif n'est pas de faire un simple copier-coller et d'enseigner la même chose partout, mais de reconnaître que les savoirs varient d'une nation à l'autre, ajoute-t-elle. La question territoriale doit également occuper une place grandissante dans le curriculum dans une perspective décoloniale. Selon Isabelle Côté, cela implique d'introduire une vision cosmocentrique du monde, partagée par l'ensemble des nations autochtones canadiennes et reposant sur l'idée que les êtres vivants et non vivants sont profondément interconnectés et égaux. Cette vision reconnaît que nous ne sommes ni supérieurs au territoire ni aux animaux. Elle met en avant l'interdépendance entre les humains et leur environnement, explique-t-elle. À l'inverse, l'anthropocentrisme, une approche où l'être humain est placé au sommet de la hiérarchie du vivant, a largement dominé depuis la colonisation du Canada. Il est essentiel de rééquilibrer la balance en exposant ces deux visions de manière plus équitable. Par exemple, lorsque l'on aborde l'exploitation des ressources naturelles en science, il faut souligner qu'elle découle d'une conception anthropocentrique du monde, précise la professeure. Des ressources pédagogiques en français. Pour les accompagner sur le plan pédagogique dans l'éducation à la réconciliation, les enseignants francophones peuvent compter sur des aides pédagogiques au sein de leur conseil scolaire, mais aussi sur le consortium provincial francophone qui offre du perfectionnement professionnel et des ressources en français. C'est un excellent partenaire pour organiser des ateliers, fournir des ressources et inviter des experts. La qualité de l'information est exceptionnelle, souligne Sylvette Fillion, conseillère pédagogique au Conseil scolaire du Nord-Ouest. Avec l'entrée en vigueur du nouveau curriculum qui impose l'intégration des savoirs et perspectives autochtones dans toutes les matières, la demande pour les services du consortium risque d'augmenter, estime sa consultante Barbara Deskin. L'éducation à la réconciliation est déjà en demande constante dans la province. Mes services sont très souvent sollicités, indique-t-elle. Lors de ses interventions auprès des écoles francophones, elle propose une variété d'ateliers destinés au personnel scolaire. Elle prend le temps, notamment, d'expliquer les protocoles à suivre lors de l'invitation d'aînés ou de gardiens du savoir en salle de classe. Elle organise également des sorties culturelles pour les enseignants et développe de nombreuses ressources qu'elle partage ensuite avec les écoles. La consultante insiste pour que ces ressources soient écrites en consultation avec les communautés autochtones. La vérité vient d'eux. Je les consulte au moins une fois par mois, sinon plus. Quand l'information n'est pas validée, pour moi, ça ne vaut rien, affirme-t-elle. Ces consultations sont d'autant plus essentielles pour refléter la diversité des savoirs et des expériences propres à chaque nation autochtone. Les perspectives peuvent varier énormément, précise-t-elle. Elle cite en exemple Ekti Margaret Cardinal, une aînée ayant fréquenté un pensionnat francophone. D'après elle, son témoignage permet d'éclairer l'histoire des relations franco-autochtones en Alberta et d'en comprendre les répercussions actuelles. Même si elle comprend bien le français, elle refuse de parler la langue. C'est important de laisser de la place à ses récits et de respecter ses expériences, ajoute la consultante. Les défis de l'immersion française. Il n'y a pas que les écoles francophones qui travaillent activement en faveur de la réconciliation. Les enseignants des programmes d'immersion française ont aussi leur rôle à jouer. Ce travail quotidien présente, par contre, son lot de défis, confie Nicole Trion, une enseignante d'immersion française qui travaille avec 3 autorités scolaires à Edmonton. Selon l'école où elle se trouve, l'accès aux ressources et au soutien pédagogique pour intégrer les perspectives autochtones en classe peut varier considérablement. J'ai déjà été dans une division scolaire où il n'y avait presque aucun soutien. Je devais chercher toutes les ressources et les activités en ligne, par moi-même, pour les offrir aux élèves. Et dans une autre division, non seulement il y avait du soutien pédagogique, mais en plus, nous faisions des cérémonies de purification à la sauge et nous invitions des aînés fréquemment. Raconte celle qui agit aussi à titre de coordonnatrice de programme pour la branche albertaine de Canadian Parents for French. Cette disparité peut s'aggraver si un enseignant hésite à alourdir sa charge de travail. Après tout, trouver des ressources adaptées au niveau de langue des élèves en immersion française peut être particulièrement complexe, mentionne Nicole Trion. Bien qu'elle prenne elle-même le temps de chercher des ressources supplémentaires, elle remarque que ce n'est pas toujours le cas pour ses collègues. C'est beaucoup de travail et tout le monde n'a pas la patience. Quand on trouve des ressources en français, elles sont souvent destinées à des locuteurs natifs, ce qui nécessite un travail supplémentaire pour les adapter au niveau de mes élèves, explique-t-elle. Ce travail peut aussi entraîner une certaine insécurité linguistique, puisque les enseignants d'immersion française doutent parfois du vocabulaire à utiliser. Isabelle Côté, qui se dévoue à la formation des enseignants à l'Université Simon Fraser, en Colombie-Britannique, rappelle de son côté que rien n'empêche un enseignant d'immersion française de trouver des ressources de qualité en anglais et de les utiliser sans les traduire. Je vais dire quelque chose de controversé, mais il n'y a rien qui dit que tout doit toujours être 100% en français en immersion. La recherche n'appuie pas vraiment cette conception. Il est tout à fait possible de travailler à partir d'une ressource écrite par un ou une auteur autochtone sur des savoirs de la nation locale en anglais et après, d'en parler en français, de faire des projets en français. Cela peut même améliorer la compréhension des élèves, mentionne-t-elle. La professeure rappelle également que les disparités dans l'intégration des perspectives autochtones ne concernent pas seulement les enseignants d'immersion française, mais l'ensemble du corps enseignant et du système d'éducation. Ce n'est pas parfait et il n'y a pas d'uniformité. Et c'est le cas en français comme en anglais, d'une commission scolaire à l'autre, d'une école à l'autre, et d'un enseignant à l'autre. Il ne faut pas oublier qu'avec l'autonomie professionnelle, un enseignant a une certaine liberté d'interpréter le curriculum et ce n'est pas tout le monde qui est sensible à ces questions, évoque-t-elle. Diane Campo, consultante en éducation autochtone auprès du Conseil scolaire Centre-Nord, CSCN, estime que la réconciliation ne peut se faire sans une meilleure connaissance mutuelle. Il est difficile de se réconcilier avec des étrangers, affirme-t-elle. Dans cette optique, le CSCN prévoit offrir des séances de perfectionnement professionnel à l'ensemble de son personnel afin de renforcer la compréhension des réalités autochtones. Un effort particulier sera également consacré aux enseignants francophones d'origine immigrante pour leur permettre d'enseigner efficacement la réconciliation. Il y a une démarche essentielle à entreprendre pour leur transmettre l'histoire et les responsabilités qui en découlent en matière de réconciliation, mentionne Diane Campeau. Devenir de meilleurs alliés. Malgré les efforts déployés par les conseils scolaires francophones et les programmes d'immersion française, Isabelle Côté souligne qu'il leur reste du chemin à parcourir pour prendre pleinement conscience de leurs angles morts et devenir de meilleurs alliés dans le processus de réconciliation. Selon elle, cela implique de ne pas oublier que la défense des droits linguistiques francophones doit s'accompagner d'une solidarité active envers les peuples autochtones et leur propre lutte. Les écoles francophones minoritaires et les programmes d'immersion française devraient être les premiers à défendre les droits à la reconnaissance et à l'éducation dans leur langue. Nous avons lutté pour obtenir nos écoles francophones. Nous revendiquons nos droits et devrions être les premiers à encourager l'autodétermination, conclut-elle. C'était « Vers une réconciliation plus affirmée dans l'éducation francophone ». Un texte de Gabrielle Audet-Michaud, paru le 18 mars 2025 dans Le Franco.
Casse-tête, les bienfaits pour le cerveau. Un texte de Marie-Lise Rousseau, paru le 26 février 2025 dans le magazine Québec Science. Les casse-têtes portent vraiment bien leur nom, car cette activité ludique fait travailler plusieurs zones du cerveau simultanément. À vos morceaux. En 2020, durant la première période de confinement, le fabricant de casse-têtes Ravensburger, un des plus gros acteurs de l'industrie, a vu ses ventes augmenter de 370% aux États-Unis. L'isolement et le besoin de s'éloigner des écrans après de longues journées de télétravail ou d'école à la maison ont incité de nombreuses personnes de tous âges à renouer avec ce passe-temps ou à le découvrir. Depuis, bien que la vie ait repris son cours normal, l'engouement ne s'est pas tari. Ils sont encore plus populaires que pendant le confinement parce que les gens qui ont commencé à en faire à cette période continuent, affirme l'historienne des casse-têtes Anne Williams, également professeure émérite d'économie au Bates College dans le Maine. Cette Américaine née à Montréal a notamment publié l'essai « The Jigsaw Puzzle, Piecing Together a History » qui retrace l'histoire de ce jeu de patience. Sur les réseaux sociaux, diverses célébrités allant du comédien québécois Théodore Pellerin à l'écrivain Stephen King, en passant par des membres du clan Kardashian et l'acteur hollywoodien Hugh Jackman, ont partagé des clichés les montrant avec le fruit de leur labeur. Il y a de quoi se réjouir de la montée en popularité des casse-têtes. Derrière son apparente simplicité, cette activité mobilise de nombreuses habiletés cognitives, démontre une étude allemande publiée dans la revue Frontiers in Aging Neuroscience en 2018. Menée par le chercheur en neurosciences et en psychiatrie Patrick Fissler, Alors, à l'Université d'Ulm, cette étude est la première à s'être penchée rigoureusement sur les effets des casse-têtes sur le cerveau, selon le scientifique. On peut notamment y lire que la régulation des émotions pénibles par la pratique des casse-têtes pourrait prévenir des états de stress chroniques qui peuvent avoir un impact négatif sur le vieillissement cognitif et la démence à long terme. Rien de moins. Attention, prévient toutefois le chercheur. Ces effets varient d'une personne à l'autre. Pour certains de nos participants, c'était très relaxant. Mais pour d'autres, ça restait une activité frustrante ou carrément désagréable, expose celui qui est désormais affilié au service psychiatrique de Turgovie, en Suisse. Effet thérapeutique. Chez les personnes de la première catégorie, les bienfaits des casse-têtes sur la santé psychologique sont indéniables. Quand mon fils de 21 ans est décédé en 2018, c'est la seule chose que j'étais capable de faire et qui m'apaisait. Tout le reste me demandait trop de concentration. Je n'ai pas arrêté depuis et ça m'aide encore, confie Sonia Boivin, une adepte de casse-tête qui réside à Sherbrooke. Ce fut ma thérapie, souligne Micheline Plamondon, qui a traversé un deuil semblable. Plusieurs mordus de puzzle soutiennent que ce loisir leur permet de ralentir et de se détendre. Pour Chantal Comtois, une sexagénaire, il s'agit de la seule activité au monde qui me permet de me vider complètement la tête. C'est un passe-temps qui me fait décrocher complètement, soutient quant à elle Marie-Josée Vinet, une retraitée du milieu de la santé qui est tombée sous le charme de ce passe-temps pendant la pandémie. Placer un morceau de casse-tête au bon endroit est perçu comme une récompense par le cerveau. Il sécrète alors de la dopamine, un neurotransmetteur, qui procure un sentiment de satisfaction. C'est aussi une tâche qui requiert une grande concentration sur une longue période, ce qui maintient un état semblable à de la méditation, ajoute Patrick Fissler. Bien qu'ils contribuent à la détente, les puzzles ne peuvent se substituer aux anxiolytiques pour traiter les troubles anxieux, nuance toutefois le neuropsychologue québécois Mathieu M. Blanchet, qui se spécialise dans l'évaluation des troubles neurodéveloppementaux et de troubles neuroacquis. Leurs bienfaits sont vraiment dans l'effet du moment présent. C'est un moment d'arrêt où il n'y a pas de pression, avance-t-il. Ça amène le cerveau dans une phase de pleine conscience. Le cerveau peut alors enfin se mettre à se relaxer, ce qui permet au corps de se désactiver, de se désengager et de moins sécréter de cortisol, l'hormone du stress. Stimulation multiple. Déplorant le peu d'intérêt à financer ce genre d'études, puisque les gens font déjà des casse-têtes, Patrick Fissler a pu mener son projet grâce au soutien financier du fabricant Ravensburger, qui n'a été nullement impliqué dans le processus, sauf pour fournir les casse-têtes employés par les participants et participantes. L'étude a été menée auprès de 100 personnes de plus de 50 ans, peu familières avec cette activité. Toutes ont reçu de l'information sur la prévention du déclin cognitif et ont signalé les changements qu'elles ont apportés ou pas à leurs habitudes de vie. En même temps, la moitié de ce groupe devait faire des casse-têtes pendant 5 semaines, à raison d'au moins 1 heure par jour. Les cobayes ont assemblé en moyenne 3589 pièces en 49 heures. De cette analyse, nous avons établi une très forte corrélation. Les personnes qui ont fait beaucoup de casse-têtes ont de meilleures habiletés cognitives, poursuit le chercheur, qui a soumis les cobayes à une série de tests standardisés. Cela s'explique par le fait que la pratique des casse-têtes stimule jusqu'à 8 fonctions cognitives simultanément, révèle les résultats. La perception visuelle, reconnaître des objets et des motifs. La praxie constructive, reconstituer un tout à partir d'éléments séparés. La rotation mentale, faire pivoter mentalement les pièces. La rapidité cognitive et le balayage visuel, trier les pièces. Le raisonnement perceptif, intégrer différentes informations pour élaborer des stratégies. La flexibilité cognitive, alterner différentes stratégies, ainsi que la mémoire de travail et épisodique, retenir l'emplacement spatial et les images du puzzle. Lorsqu'on regarde un morceau de casse-tête, l'information se rend d'abord dans les yeux pour ensuite atteindre le lobe occipital du cerveau. De là, elle circule dans la voie ventrale et la voie dorsale du cerveau. La première traite l'image et la deuxième, son emplacement. C'est un travail très complexe et stimulant pour le cerveau, car il doit intégrer ces informations pour s'en servir par la suite, décrit Patrick Fissler. Signe que les casse-têtes sont bien plus qu'un simple passe-temps, ils servent aussi dans le cadre du test Wechsler, la référence internationale pour évaluer l'intelligence et établir des diagnostics neurologiques. Mathieu M. Blanchet les emploie d'ailleurs régulièrement dans sa pratique. Un des éléments de cette batterie de tests consiste à résoudre un casse-tête, explique celui qui exerce dans un cabinet à Boucherville. On montre aux gens un casse-tête de 6 morceaux. Mais seulement 3 d'entre eux sont bons. Les patients doivent établir lesquels colleraient ensemble. Ça permet d'analyser la capacité de résolution de problèmes ainsi que les capacités d'adaptation, de flexibilité et de rotation mentale. On peut évaluer beaucoup de fonctions ainsi. Vous écoutez « Casse-tête, les bienfaits pour le cerveau », un texte de Marie-Lise Rousseau, paru le 26 février 2025 dans le magazine Québec Science. Et chez les enfants, les casse-têtes ont initialement été conçus comme un outil éducatif pour les enfants au milieu du 18e siècle. Ils sont encore aujourd'hui utilisés à des fins pédagogiques, souligne l'historienne Anne Williams. Ils travaillent la dextérité manuelle, la reconnaissance des couleurs et des formes, et ils permettent aux enfants d'apprendre la patience, ainsi que la persévérance. Peu d'études scientifiques documentent leurs effets chez les plus petits, déplore Patrick Fissler. C'est dommage et étonnant parce qu'il s'agit d'un des jeux les plus communs, note-t-il. Seules 3 études ont été publiées entre 1990 et 2014 et elles font une corrélation entre la pratique du puzzle et le développement des compétences spatiales chez les jeunes enfants. Plus récemment, en 2020, une étude de l'Université d'East Anglia, au Royaume-Uni, publiée dans la revue Child Development, a établi à 4 ans l'âge où les enfants font des casse-têtes en analysant les images sur les morceaux et non en y allant simplement par essai et erreur. On voit que plus les jeunes enfants en font, meilleurs ils sont dans les tâches de rotation mentale, observe pour sa part Mathieu M. Blanchet. Pas d'effet miracle. Mais il faut prendre l'activité au sérieux et s'engager à long terme si on veut qu'elle ait un effet bénéfique sur le cerveau. Patrick Fissler et son équipe ont ainsi calculé qu'une personne doit assembler au moins 9100 morceaux de casse-tête par année pour en ressentir les bienfaits sur le plan cognitif. La recherche démontre par ailleurs que les bénéfices sont directement liés au niveau de difficulté du puzzle, Ainsi, mieux vaut faire 9 casse-têtes de 1000 morceaux par année que 90 de 100 pièces. Chez les personnes âgées, les résultats de l'étude menée par Patrick Fissler avancent l'hypothèse qu'en stimulant plusieurs zones du cerveau, les casse-têtes auraient le potentiel de ralentir le déclin cognitif, ainsi que les symptômes de démence et d'Alzheimer. Chantal Thibault, une adepte de ce loisir, constate personnellement les bienfaits qu'il a chez sa mère, qui souffre d'Alzheimer. Je lui apporte 2 casse-têtes de 300 morceaux par semaine. Ils renforcent sa mémoire, car ils obligent son cerveau à se souvenir des formes, des couleurs et des motifs. Bien entendu, cet effet est limité. On ne peut pas arrêter le déclin cognitif, mais on peut le ralentir ou stabiliser la situation, surtout si on a des prédispositions à la démence ou à l'Alzheimer. Pour une personne en début d'Alzheimer, faire des casse-têtes est un bon facteur de protection. Mais ce n'est pas un remède miracle, soutient Mathieu M. Blanchet. Il rappelle que les entraînements cognitifs doivent aller de pair avec une hygiène de vie saine, qui comprend notamment une alimentation variée, un sommeil régulier, de l'activité physique et des interactions sociales. À vos marques, assemblées. Cette lecture vous a donné envie de vous lancer dans la résolution d'un casse-tête? Avant de commencer à trier des centaines de petits morceaux, voici quelques recommandations pour maximiser votre plaisir. Selon l'historienne et collectionneuse Anne Williams, 3 critères s'imposent. D'abord et avant tout, il y a l'image. Vous ne voulez pas passer des heures à assembler une image qui ne vous plaît pas. Ensuite, il faut trouver un casse-tête qui correspond à ses capacités, c'est-à-dire qui représente un certain défi, mais qui ne sera pas écrasant. Le plus gros casse-tête offert sur le marché comporte 60 000 morceaux. Je ne voudrais jamais le faire. Enfin, la coupe des pièces est aussi à considérer. Certains nouveaux casse-têtes ont des contours irréguliers ou des formes particulières, ce qui peut jouer sur le niveau de difficulté. Si l'idée de passer des heures à imbriquer des morceaux de carton vous donne de l'urticaire, pas de panique. D'autres activités stimulantes ont des bienfaits semblables sur le cerveau. Patrick Fissler, qui s'intéresse particulièrement aux effets des loisirs sur la santé cognitive et le bien-être psychologique, recommande la lecture, ainsi que les jeux de société ou encore les jeux de cartes. Le mot d'ordre est de ne surtout pas ralentir le rythme de son activité cérébrale, ce qui peut être un piège pour les personnes à la retraite. On dit toujours que le cerveau est comme un muscle et qu'il faut l'entraîner, explique Mathieu M. Blanchet. En fait, ce n'est pas du tout comme un muscle, mais il faut néanmoins le garder actif afin d'éviter son déclin cognitif. 6 pièces de l'histoire du casse-tête. Vers 1750, le casse-tête aurait été inventé par John Spilsbury, rapporte l'historienne Anne Williams. À l'époque, il servait strictement d'outil éducatif. Les premiers casse-têtes étaient des cartes géographiques, dit-elle. Assembler les pièces aidait les enfants à mémoriser les lieux. 1933, en plein cœur de la Grande Dépression, le puzzle connaît une popularité inédite auprès du public américain. En février 1933, les fabricants ont produit 10 millions de casse-têtes par semaine, avance l'historienne. Il n'y avait pas autant de passe-temps qu'aujourd'hui, ce qui a contribué à leur popularité. 1939-1945. Les rationnements d'essence durant la Deuxième Guerre mondiale limitent les déplacements de la population. Souvent confinés à la maison, les familles suivent les nouvelles du front en écoutant la radio, tout en faisant des casse-têtes. 1960, la compagnie américaine Springbok met sur le marché des modèles de casse-tête de qualité supérieure, ce qui ravive l'intérêt pour ce loisir. 1990, la marque canadienne Ribbit lance une collection de casse-tête en trois dimensions qui connaît un vif succès chez les jeunes. 2020, les périodes de confinement ravivent l'engouement pour les casse-têtes. Depuis, de nouvelles compagnies se sont lancées dans la production de puzzles et se sont mises à créer des designs nouveaux et très intéressants, observe Anne Williams. C'était « Casse-tête, les bienfaits pour le cerveau », un texte de Marie-Lise Rousseau, paru le 26 février 2025 dans le magazine Québec Science.
L'université et sa faible faculté culturelle. Un texte de Stéphane Baillargeon, paru le 17 mars 2025 dans Le Devoir. Comparaison donne parfois des raisons. Marie-Claude Larouche, professeure titulaire en éducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières, UQTR, revient d'un séjour en Catalogne où elle a pu constater l'ampleur des activités socioculturelles de l'université Jaume-I, UJI, de la ville de Castellón de la Plana. Le campus de l'UJI comprend notamment une salle culturelle multifonctionnelle. En mars seulement, la programmation propose du cinéma de répertoire et deux pièces de théâtre de compagnie professionnelle. La danse et la musique y sont aussi à l'honneur. C'est de haut niveau, dit la professeure. On parle des canons des arts, pas des spectacles d'humoristes. Il y a vraiment une volonté de perpétuer la culture classique avec des préoccupations pour les formes d'expression contemporaines exigeantes. Castellón de la Plana a une taille similaire à Trois-Rivières. L'UJI, avec ses quelque 15 000 étudiants, se compare à l'UQTR. La loi constitutive de l'université espagnole oblige cette université, comme toutes les autres, à diffuser la culture et à se doter d'une politique culturelle. Jaume-I y arrive en travaillant avec différentes associations culturelles, des services du ministère de la Culture ou encore des initiatives citoyennes pour protéger ou mettre en valeur le patrimoine matériel ou immatériel de la région, y compris des traditions culturelles ou folkloriques. L'université catalane a donc un lieu de diffusion important et des liens profonds avec son territoire, résume Mme Larouche. C'est ce qui lui donne une force de frappe culturelle, alors que pour nous, tout est à faire de ce point de vue. Ce rôle est encore plus important dans le contexte de la Catalogne, qui est un peu similaire au nôtre, au Québec, avec des préoccupations identitaires fortes. L'université soutient à la culture québécoise? Le système culturel québécois, au cœur de cette identité nationale, donne de plus en plus de signes de crise, du sous-financement à la baisse des fréquentations en passant par la surproduction. Comme le montrent l'exemple espagnol et les réussites états-uniennes, les universités québécoises pourraient contribuer, dans une certaine mesure, à revigorer ce système névralgique. Les cégeps aussi. Une part du renouvellement des publics pourrait logiquement passer par là. Les présentations culturelles offrent en plus des moyens supplémentaires pour initier les étudiants étrangers à la culture nationale, une autre bonne idée espagnole que pourrait récupérer le Québec. Le campus de l'UQTR comprend un espace d'exposition, la galerie R3, mais aucune salle de spectacle pour s'activer culturellement, même modestement. Le plus évident, quand on arrive sur notre campus, c'est le grand centre d'activité physique et sportive, fait remarquer Marie-Claude Larouche. Les équipes sportives des Patriotes assurent une partie de la renommée de l'UQTR. Sur le plan culturel, par contre, je dirais que tout reste à faire. Elle s'y attelle. Avec son collègue, Hervé Gay, Elle a co-signé une étude pour la mise en œuvre de la première politique des arts et de la citoyenneté culturelle, adoptée par l'UQTR en 2021. 4 ans plus tard, un poste de coordonnateur aux activités culturelles sur le campus vient d'être affiché. Le concours de recrutement se terminait le 6 mars 2025. Une tradition anglo-saxonne. Les universités concentrent des centres de savoir et de culture depuis un bon millénaire. Cette institution occidentale par excellence forme maintenant une bonne partie des artistes et des administrateurs des arts, des lettres et de la culture. Aux États-Unis, une part importante du financement des activités culturelles passe par les salles de spectacle, les galeries et les musées des campus, parfois de classe mondiale. Le chercheur français Frédéric Martel en a fait le compte dans son essai « De la culture en Amérique », Gallimard 2006. Le réseau américain comptait alors environ 5600 universités et collèges, rassemblant 2300 Performing Arts Centers, 700 musées ou galeries professionnelles, 345 salles de concert et 300 radios indépendantes. L'Université Harvard rassemble 3 musées. Le musée Fogg, créé en 1895, spécialisé en peinture classique et moderne. Le musée Arthur M. Sackler, sur les arts de l'Antiquité, de l'Asie et du monde musulman. Et le musée Buschrisanger, spécialisé en peinture allemande et du nord de l'Europe. Les 3 établissements emploient près de 300 personnes, autant que le musée des Beaux-Arts du Canada. Le campus compte aussi une salle de cinéma, une des meilleures cinémathèques des États-Unis et un centre d'archivage reconnu mondialement. Les 2 salles de théâtre de Harvard, 600 et 100 places, emploient une troupe permanente, un luxe dont ne jouit aucune salle du Québec. Les universités des États limitrophes du Québec ont souvent des infrastructures majeures qui les placent au centre du système culturel. Le Collège Vassar de Poughkeepsie, dans l'État de New York, a été le premier à inclure un musée sur son campus en 1864. Le Francis Lehman Loeb Art Center se déploie sur 3300 m². Sa collection compte 18 000 œuvres, dont certaines majeures de Picasso, Balthus, Bacon, Pollock et Calder. Le Kennedy Center du Collège Hamilton, également dans l'État de New York, comprend 2 salles de spectacle, une galerie d'art et des studios de création. Cette tradition anglo-saxonne, faisant de l'université un centre culturel majeur, a partiellement essaimé ici. McGill a géré le musée McCord de sa création en 1921 jusqu'en 1988. Le campus du centre-ville de Montréal abrite encore le petit musée Redpath et son magnifique intérieur victorien, ainsi que 4 salles de concert, dont la salle Pollack, temporairement fermée. L'université Bishop, dans l'arrondissement de Lennoxville, abrite la galerie Foreman, 2 studios de création, la salle historique Bandeen Hall, 230 places, et le théâtre Centennial, de 550 sièges. L'université Concordia possède 5 galeries d'art, dont la galerie Leonard & Bina Helen et sa collection permanente. L'héritage paraît bien plus mince du côté de la dizaine d'universités francophones. Beaucoup ont des troupes amateurs de théâtre ou d'improvisation. Quelques-unes possèdent une galerie d'art, dont l'Université Laval, l'UQAM et l'UdeM, et des salles multifonctionnelles de diffusion de films, de conférences ou de spectacles. Seulement, rien ne se compare à ce qu'on trouve à McGill, à Bishop ou à Concordia, et encore moins à ce qui se trouve de l'autre côté de la frontière. L'exception sherbrookoise. L'Université de Sherbrooke, UDS, a été pionnière au Canada il y a plus d'une décennie en adoptant une politique culturelle institutionnelle. Pour la mettre en œuvre, le campus estrien compte un centre culturel important qui fête son 60e anniversaire. Il comprend une galerie d'art qui présente 4 expositions par année, une petite salle expérimentale et la grande salle multifonctionnelle Maurice O'Brady, la 4e salle du Québec avec ses quelques 1480 places. Bon an, mal an, l'espace de diffusion, remis à niveau en 2014, peut se remplir jusqu'à 130 fois. La programmation éclectique, théâtre, musique, spectacle pour enfants, cirque, humour, variété ou conférence, provient à 90% du Québec. La région en occupe une partie, par exemple, avec les concerts de l'Orchestre symphonique de Sherbrooke. Les étudiants de l'UDES bénéficient de tarifs réduits. Ils ne sont tout de même pas très nombreux, de l'aveu de la directrice générale du Centre culturel, Joanne Lamoureux, en poste depuis 3 ans. Les étudiants composent 13% de la clientèle de la grande salle, mais le gros de la petite. Un sondage mené auprès des étudiants a révélé qu'ils connaissent le centre, mais considèrent que notre offre ne leur est pas nécessairement destinée, dit-elle. On travaille pour s'adapter. La radio étudiante est sollicitée. Une bière, appelée l'O'Brady, est maintenant brassée et les spectateurs peuvent boire de l'alcool pendant les spectacles. Une étudiante s'occupe des réseaux sociaux du centre. Joanne Lamoureux souhaiterait obtenir des fonds publics ou privés pour offrir des activités gratuites ou à petit prix pour démocratiser l'accès à la culture des citoyens et de la communauté étudiante. Le financement du centre culturel est autonome à 80%. Une obligation de l'UDES et un sommet dans le secteur de la diffusion artistique. La galerie a par contre un modèle d'affaires différent, entièrement lié à des subventions, dont celle de la ville. L'université fournit les espaces gratuitement et laisse les frais de fonctionnement à son locataire. 4 foyers loués pour des activités d'entreprise servent à engranger des revenus de location. La nouvelle directrice a embauché 7 personnes depuis son arrivée, notamment au service de communication marketing, pour trouver de nouvelles sources de financement. Le centre compte maintenant une 30aine d'employés permanents et embauche une 60aine de contractuels étudiants, notamment pour la billetterie et l'entretien ménager. C'était « L'université et sa faible faculté culturelle », un texte de Stéphane Baillargeon, paru le 17 mars 2025 dans Le Devoir.